Et parce que c'était hier la cérémonie des Césars, la grande messe du cinéma français, et que ce sera demain celle des Oscars, le tout dans une ambiance inédite pour le 7e art, qui connaît une vraie révolution depuis l'affaire Weinstein, même si en France, le milieu a sans doute tardé à réagir. Mercredi, dans Libération, plus d'une centaine de professionnels ont mis leur célébrité au service de la cause des victimes d'agressions sexuelles. Et jeudi, dans Le Monde, une centaine de personnalités ont appelé à changer d'air, ERE, et à instaurer un quota, des quotas même de femmes dans le cinéma français. Alors entre tribune et appel à l'action, 5 mois après l'affaire Weinstein, peut-être que le cinéma français est en train de changer en effet. En tout cas, il multiplie les interventions. C'est ce qu'on va voir avec vous, Bérénice Vincent. Vous êtes exportatrice de films jusqu'à il y a très peu pour les films du Losange. Vous êtes cofondatrice de l'association Le Deuxième Regard et porte-parole d'un nouveau collectif qui s'intitule 50-50 pour 2020, qui milite pour la parité, l'égalité et la diversité dans le cinéma français. Enfin, j'ai envie de vous poser la question. Enfin.
Oui, enfin, on va dire que c'est le début, mais bon, ça a commencé quand même il y a très longtemps. La question de l'égalité homme-femme, on est loin d'être les premiers et les premières à le mener. Dans le cinéma, oui, c'est plus récent. Le Deuxième Regard existe depuis 2013, donc ça fait 5 ans qu'on s'intéresse à ces questions-là avec plusieurs camarades. Et c'est vrai qu'en 2013, quand on a lancé l'association, le sujet était absolument pas entendu. Donc il faut déjà se réjouir que les choses bougent avec une prise de conscience quand même de plus en plus forte sur les problèmes d'égalité.
Une prise de conscience et des prises de position. Je Tout disais fait, que ouais. Cette semaine en particulier, à travers des tribunes, ça se fait comme ça beaucoup en ce moment, ouais. À travers des tribunes, donc des personnalités se sont exprimées pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Il y a eu beaucoup de choses avant cette cérémonie des Césars qui a eu lieu donc hier soir, mais finalement pendant la cérémonie, pas beaucoup de choses ont été dites. Vous avez été surprise, déçue, indifférente que vous avez regardé cette cérémonie hier soir, Bérénice Vincent.
J'ai pas été très étonnée. Il y a quand même eu quelques prises de parole, mais en effet minimes. Faut souligner celle de Marie-Ange Luciani, qui a donc eu le
productrice.
César du meilleur film, tout à fait.
Productrice, avec 120 donc, battements. 220 battements par minute, de Robin Campillo.
Voilà, et d'ailleurs, toute l'équipe dans l'ensemble a été quand même très engagée dans ses discours, ce qui est très réjouissant, je trouve. Et après, oui, il y a eu ce moment splendide où, bon, bah, c'était le moment, donc les gens se sont levés et se sont rassis.
C'est-à-dire que Manu Payet, qui était l'animateur de la soirée, a déclaré que c'était le moment, balance ton porc. Et il a effectivement demandé à la salle de se lever pour arborer le ruban blanc, qui est le ruban de la Fondation des Femmes, en soutien donc aux victimes des agressions et des violences sexuelles. Vous avez pensé quoi de ce moment ?
Que c'était très symbolique et que ça s'arrêtait là. Après, ne soyons pas naïfs, on en passe par là aussi. Après, concrètement, oui, il faut justement aller plus loin et on va dire convoquer une intelligence solidaire pour faire avancer les choses.
Bon, ça n'a pas en effet empêché la soirée de se dérouler, on va dire complètement normalement, hein, par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que des récompenses ont été données. Est-ce que vous êtes satisfaite du palmarès, Bérénice Vincent ?
Par rapport à 120 battements, c'est très bien. Voilà, à titre personnel, j'en suis très heureuse. À titre personnel, à nouveau, il y a, à mon sens, une grande oubliée, un grand oublié si on parle du film, c'est Grave de Julia Ducournau.
Qui était la seule, d'ailleurs, la seule femme réalisatrice, enfin donc la seule réalisatrice nominée pour
Tout à fait.
La réalisation.
Meilleure réalisation et aussi meilleur premier film. Et il y avait aussi la jeune actrice Garance Marillier qui était aussi parmi les nommés, et donc pas de prix, alors que c'est vraiment un très très bon film, un très bon premier film, très audacieux aussi, et qui change par rapport à pas mal de films français et de premiers films français aussi. Donc c'est à mon sens fort dommage qu'il n'y ait pas une récompense.
Vous étiez vous occupée de ce film en tant qu'exportatrice ?
Non, pas du tout.
Est-ce qu'il y en a dont vous étiez occupée ?
Alors, écoutez, récompensé. Non, pas du tout. Non, non, non. Pas cette
vous êtes repartie bredouille, vous.
Oui, mais
en tant qu'exportatrice.
Ils étaient, non, oui, tout à fait, mais ils étaient pas nommés. Donc, en même temps, c'est.
Vous étiez tranquille, voilà, c'est ça.
Mais avec rien déjà préparé.
Qu'est-ce que vous pensez, Bérénice Vincent, de cette cérémonie des Césars qui a commencé en 1976, qui a donc maintenant 42 ans, de son évolution, de la façon dont elle se passe, de son ouverture au reste de la société. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai une certaine affection, on va dire, de jeune adolescente qui a regardé cette cérémonie, voilà, dans un cadre familial pendant pas mal d'années. J'avoue que les dernières années, je l'ai pas tant regardé que ça.
C'est pas indispensable pour quelqu'un qui est professionnel du cinéma de
le
regarder alors.
Non, c'est indispensable alors. D'être au courant des nominations et des résultats après de le regarder.
Pendant trois heures.
Voilà,
on peut s'en passer.
À mon sens, on peut s'en passer. Après, ça dépend de ce qui s'y passe aussi au niveau des films qui sont nommés, etc. Là, il y avait aussi un enjeu, en effet, qui était plus direct par rapport au sujet qu'on aborde ce matin, d'ailleurs. Mais oui, j'ai une certaine affection. Après, au niveau des films qui sont représentés, voilà, ça varie selon les années, etc. On ne peut pas dire que je sois toujours passionnée par ce qui est présenté. Mais une fois de plus, c'est...
Une soirée comme une autre. Vous regardez les Oscars ou pas, qui auront lieu demain?
Alors non, au niveau du décalage horaire, je ne regarde
pas.
Par contre, évidemment, je me tiens toujours au courant et je vois, pareil, ce qui se passe en termes de nomination et de résultats.
Alors parlons effectivement d'un des sujets qui nous occupe ce matin, l'initiative d'abord de 130 personnalités, essentiellement du cinéma associé à la Fondation des Femmes, sur le modèle du fonds Time's Up aux États-Unis, qui a d'ailleurs déjà récolté 20 millions de dollars pour aider celles qui n'ont pas les moyens de traduire en justice leurs agresseurs. C'est un peu sur ce modèle-là donc qu'a été lancée cette initiative mercredi dans Libération. Et puis la tribune contre le sexisme au cinéma, la mise en place de quotas jeudi dans Le Monde. Déjà une première question sur ces deux initiatives. Est-ce que c'est pas sauter une étape pour le cinéma français? Parce que contrairement au cinéma américain, en France, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment entendu beaucoup de choses, que peu de personnalités ont parlé, des appels ont été lancés, mais que, par exemple, aucune figure n'a été mise en accusation. Est-ce que c'est pas sauter une étape, non pas dans l'idée de balancer les gens, mais dans l'idée d'un débat, d'une discussion, d'une réflexion? Tout de suite, on intervient, Bérénice Vincent.
Écoutez, nous, au niveau du collectif 50-50, c'est justement l'idée, c'est qu'il y a un débat. Après, s'il y a d'autres initiatives qui sont en train de se mettre en place, d'une part, c'est réjouissant parce que ça veut dire que, justement, il y a des choses qui bougent. Et si ça vient de manière aussi rapide et qui peut sembler à certains ou à certaines extrêmes, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un ras-le-bol de ce qui ne s'est pas passé.
Comment expliquer que ça ne s'est pas passé? Comment expliquer qu'il y a eu peu de choses? Est-ce que c'est parce que le cinéma français est vertueux? Ou est-ce qu'il y a une omerta? Ou pour d'autres raisons?
On va pas se mentir, le cinéma français n'est pas plus vertueux que le cinéma américain ou que le cinéma polonais. Enfin, je veux dire, on reste dans les mêmes logiques d'inégalité, de domination, etc. Après, on en a parlé. Je veux dire, il s'est peut-être pas passé grand-chose pour le grand public, mais au sein du secteur, évidemment qu'il y a des discussions, des débats, que les gens parlent. Et c'est ça, en fait, qui est très positif, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience et une envie de débattre. Ce qui se passe là... C'est intéressant parce que le territoire français est assez particulier sur la question justement de, on va dire, la liberté d'expression en général. La tribune descend, bon, vous vous doutez de ce que j'en pense.
Non, dites-nous.
Bon, à savoir que c'est quand même, on va dire, une espèce de...
Signé par Catherine Deneuve,
oui, tout à fait.
C'est comme ça qu'on retient cette tribune.
C'est quelque chose de très individualiste, notamment, de très déconnecté, à mon sens. Et en même temps, très bien, débattons, discutons, opposons-nous, engueulons-nous, ça c'est pas grave. L'important, au bout d'un moment, c'est d'arriver à faire bouger les choses de manière intéressante.
La présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Mellefer, disait à propos de cette initiative des 130 personnalités dans Libération mercredi, qu'il s'agissait de profiter de la visibilité qu'ont les actrices et les réalisatrices pour aider des femmes dans tous les secteurs de la société. Malgré tout, ce qui se passe depuis 5 mois est venu du monde du cinéma. Est-ce qu'il y a une spécificité, et si oui, laquelle, dans le monde du cinéma, Bérénice Vincent?
Une spécificité. La spécificité du cinéma, déjà, c'est que c'est un art, mais aussi une industrie, pour reprendre la fameuse formule de Malraux. Donc, il y est question, évidemment, d'imaginaire, mais aussi d'argent. Donc, c'est déjà un mélange, finalement, assez rare. Et quand on parle d'argent, c'est de beaucoup d'argent. Je veux dire, c'est pas, écrire un livre, le faire éditer, c'est pas du tout les mêmes enjeux économiques, en termes de fabrication, on va dire. La question de l'imaginaire, auprès du grand public, elle est très forte. Je veux dire, c'est parce que, justement, le cinéma est un art collectif qui comprend, on va dire, de l'écriture, de la photographie, de la musique, etc., qui a une très grande émotion qui se passe, un rapport à l'imaginaire très fort. Quand la réalité rattrape l'imaginaire et le fantasme, c'est quelque chose qui explose, qui est assez violent en soi, d'un certain côté. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi par rapport à la vision qu'a le grand public de ce monde-là.
De l'imaginaire, de l'argent, dites-vous, peut-être aussi du désir. Je voudrais vous faire écouter le réalisateur Olivier Assayas. Il était l'invité de la Grande Table sur France Culture le 16 février dernier. Il participait au forum Sexe et Pouvoir, organisé précisément par France Culture. Écoutez ce qu'il dit du rapport particulier qui est entretenu entre les réalisateurs et les actrices.
La question des actrices et du statut des actrices, que ce soit au théâtre, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma, est déterminée tout de même par une forme de fragilité. C'est-à-dire une actrice, c'est quelqu'un qui a le besoin d'être désiré. C'est pas juste qu'elle a besoin de séduire, elle a besoin d'être désirée parce que c'est en étant désirée. J'en parle pas du point de vue sexuel, j'en parle du point de vue du regard de quelqu'un qui va l'engager pour jouer un rôle qui éventuellement lui donnera la notoriété à laquelle elle aspire. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'actrices débutantes sont dans des positions de fragilité, dans des positions de vulnérabilité terribles, et je pense que dans toutes les cultures, à beaucoup d'époques, on en a abusé, et c'est indéfendable, mais ça a eu lieu dans toutes les cultures, et je pense y compris dans la culture de cinéma ou de théâtre ou de télévision en France. Donc après, pourquoi est-ce que ces choses-là ne sortent pas, ne s'expriment pas, ne sont pas mises sur la place publique comme elles le sont, avec la violence avec laquelle elles le sont aux États-Unis, ça je suis incapable de répondre à cette question.
Bérénice Vincent.
La question du désir, on va pas régler ça en 2 minutes un samedi matin. J'en aurais pas la prétention en tout cas. Évidemment que la question du désir, elle est extrêmement importante, pas que dans le cinéma. Après, on parle des actrices, il y a aussi les acteurs. Un réalisateur, une réalisatrice a besoin aussi, a envie d'être désiré, à mon sens. Donc il faut pas réduire ça à la question des actrices. Après, oui, la position de fragilité, évidemment. Après, par rapport à ces questions de fragilité, il n'y a pas que les actrices. Je veux dire, toutes les intermittentes qui sont sur plateau, les directrices de photos, etc. Enfin, je veux dire, les positions de fragilité, la position de fragilité, elle est partout. Et la question aussi, c'est au bout d'un moment, qui en abuse, parce que c'est un peu ça le problème au final. C'est-à-dire, on peut être dans une position de fragilité, se retrouver face à quelqu'un de bienveillant par rapport à ça. C'est pas un problème en soi d'être dans une position de fragilité.
Quels sont les problèmes que vous identifiez au sein du monde du cinéma? Des problèmes de représentation, des problèmes de disparité salariale, un peu tout ça à la fois, Bernice Vincent?
La question de la disparité salariale, évidemment, comme dans tous les secteurs. Je veux dire, vous avez les chiffres.
Alors, on a les chiffres qu'on peut aller voir, consulter justement grâce à ce site, que 50-50 pour 2020. En termes de disparité salariale, la plus forte est précisément entre réalisateurs et réalisatrices. Ouais. Les réalisatrices gagnent 42% de moins que les réalisateurs.
Ce qui est énorme.
C'est énorme, et comment l'expliquer?
Alors, c'est expliqué en partie par des différences de budget aussi, mais pareil, ça...
c'est le budget des films.
Tout à fait, oui. C'est aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire que... Alors, il y a eu, je sais pas combien de discours autour de ça, comme quoi les femmes étaient plus vers la sphère de l'intime, donc du coup avaient des budgets, on va dire, inférieurs, etc.
Oui, elles font moins de films commerciaux, il n'y a pas de Danny Boone femme.
Si, il y en a, il y a des femmes
qui ont
très bien marché. Si. Bah, sans vouloir dire de bêtises, Lisa Eduelos, par exemple, a fait des très bons chiffres au box-office. voilà, eu des budgets plutôt corrects.
Donc c'est un mauvais argument, dire qu'elles font des films plus personnels.
Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, en fait, il faut ouvrir ça, et puis c'est une question aussi d'identification. C'est-à-dire que si on voit aucune réalisatrice qui, justement, va faire, un film d'espionnage ou un thriller avec un gros budget, etc. Je suis pas du tout en train de dire que il y a une obligation de faire ça, mais que au moins il y a une possibilité d'identification pour, par exemple, des jeunes réalisatrices en devenir qui s'intéresseront à ça. Et c'est pour ça, j'en reviens, désolé à Grave, mais Grave pour moi, c'était vraiment un film très audacieux
par rapport à ce qui est proposé.
Exactement. Donc ça, c'est la question d'identification, pour moi, elle est extrêmement importante.
Sur la question des quotas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'instauration des quotas? C'était la demande donc de la question des quotas, ce collectif dans Le Monde vendredi.
Extrêmement compliquée, parce que je pense que personne en soi n'a envie de passer par les quotas. On aimerait toutes et tous que les choses se fassent naturellement, que une année à Cannes, il y ait 90% de réalisatrices, et puis que l'autre année, il n'y en ait pas du tout. Ce serait pas grave, ça, à la limite. La problématique, en fait, c'est que la situation évolue très peu. C'est-à-dire qu'en France, contrairement à d'autres pays, on est plutôt bien loti hein, en termes de, par exemple, pourcentage de réalisatrices. On est entre, selon les années, 21 et 25, je crois, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce pourcentage n'évolue pas. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un tout petit peu inquiétant. Et au bout d'un moment, c'est aussi en faisant bouger les choses concrètement, avec des propositions pour justement faire évoluer cette situation, que ce chiffre bougera. La question des quotas, elle est très complexe, parce que comment, où, etc. Personnellement, voilà, je pense que ce serait beaucoup plus réjouissant que y ait 90% de femmes une année et zéro l'année d'après, et puis 60 l'année d'après, et puis 30 l'année d'après. Mais en fait, on va quasiment jamais au-delà des 30%, en général, hein, selon les pans de métier, etc., etc.
Vous êtes plutôt pour une charte de l'égalité et de la diversité à appliquer sur les tournages. C'est en tout cas une des propositions, un des outils de pensée, puisque c'est une boîte à outils, mm-hmm. Le collectif 50-50 pour 2020 que vous proposez. Mais cette charte pour l'égalité dans le cinéma, elle avait déjà été signée en 2013, si je ne m'abuse, signée par Aurélie Filippetti, qui était ministre de la Culture, Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre des Droits des Femmes, Frédéric Bredin, président du CNC, Véronique Hella, présidente d'Arte. Alors, pourquoi instaurer une charte qui a déjà été signée il y a 5 ans ?
Alors, la charte qui a été signée il y a 5 ans, pour le coup, c'était vraiment, il y avait 5 points, en fait, tout simplement, qui étaient vraiment, à titre, on va dire, incitatif pour commencer à avoir des chiffres, un état des lieux, inciter à avoir des comités paritaires, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, en gros, on venait de créer l'association.
Le deuxième regard.
Tout à fait, pardon. Et concrètement, il y a eu cette signature, et puis il y avait zéro moyen financier, zéro moyen humain pour, en gros, mener les choses correctement. Il y a certaines structures qui l'avaient signée, notamment la FEMIS, la SACD, l'APC, je crois, à l'époque. Mais le problème, c'est que on était 3, et puis que il fallait s'en occuper concrètement, de manière assez active, et qu'on travaillait toutes à côté.
Donc elle a été un peu à négliger.
Tout à fait.
Exactement. Donc il faut la réactiver.
Exactement, tout à fait.
Et la rendre efficace.
Exactement.
Et on retrouve notre invitée Bérénice Vincent, qui est exportatrice de films, qui est porte-parole d'un nouveau collectif 50-50 pour 2020, qui est une sorte d'observatoire chiffré de l'égalité femmes-hommes, ou hommes-femmes, dans les deux sens, ça marche, dans le cinéma en tout cas. Bérénice Vincent, j'aimerais qu'on en vienne à votre premier métier, si je puis dire, qui est donc exportatrice de films. Alors, pour rejoindre les deux bouts, est-ce qu'un film de femme se vend moins cher qu'un film réalisé par un homme ?
Non,
pas du tout. Ça va pas jusque-là, quand même.
Non. Pour le coup, ça va plus être une question de budget. Enfin, avant tout, évidemment, est-ce que le film est réussi ou pas. Ça, on peut en débattre, évidemment. Mais c'est une question de budget, c'est une question, évidemment, de casting aussi, savoir qui il y a dans les films, etc. Donc, c'est énormément de données. Mais non, il n'est pas question de... En tout cas, personnellement, je ne fais pas des estimations plus basses.
Est-ce que les films français s'exportent bien, mieux, moins bien aujourd'hui qu'avant ?
écoutez, ça bouge. L'année d'avant avait été assez mauvaise. Là, cette année, c'est mieux. Après, il y a plein de données différentes qui sont, on va dire, assez complexes, selon, justement, s'il y a, par exemple, un film de Luc Besson qui rentre dans les calculs.
Là, tout de suite, le chiffre monte, c'est ça. Mais d'ailleurs, à tel point qu'on dit que les exportations dépendent un petit peu trop des films de Luc Besson. Effectivement, Valère Riant, cette année, de Luc Besson, a fait monter le chiffre des ventes.
Oui, enfin bon, fort heureusement, le cinéma français dépend pas que de Valère Riant. Il y a des et surtout par rapport à l'exportation, il y a des profils de sociétés qui sont vraiment très forts. D'ailleurs, c'est vraiment un savoir-faire assez, enfin pas français évidemment parce qu'il y en a d'autres, mais les exportateurs français sont déjà nombreux parce qu'il y a un vrai savoir-faire et s'occupent de films français, mais européens, internationaux, etc. Là par exemple récemment, L'Ours d'Or était représenté par...
À Berlin
tout à fait, était représenté par Doc & Film, Daniela Elsner, qui est d'ailleurs la directrice de l'ADEF, l'association des exportateurs français, prix Ours d'Or pour Doc & Film. Dans la course aux Oscars, il y a Call Me By Your Name, qui est représenté par Memento International, Émilie Georges notamment, et Tania Meissner. Donc il y a vraiment une grande diversité de films qui sont représentés par les exportateurs français. Il y a les films français, il y a les films étrangers aussi. Et c'est, on va dire, un savoir-faire parce que on passe par différents genres de films, des films d'auteurs très pointus, des films, on va dire, grand public, très commerciaux, etc. Il y a tout un pan qui est couvert par les exportateurs français.
Qu'est-ce que vous avez le mieux vendu cette année ?
Alors,
il faut rappeler que vous avez été pendant longtemps au Film du Losange.
Oui, tout à fait.
Et que vous êtes mise à votre compte, si je sais pas si on le dit comme ça. Vous êtes indépendante maintenant. Alors, sachant que vous êtes face, justement, vous venez de le dire, à des grosses boîtes de production, ça va pas forcément être très facile de porter les films à vous toute seule.
Écoutez, surtout, c'est très récent.
Donc, vous allez bien voir ce que ça donne.
Voilà, exactement.
Donc, qu'est-ce que vous avez le mieux vendu, alors, cette année?
Écoutez, au Film du Losange, parmi les grands succès qu'il y a eu, il y a eu le film de Michael Haneke, Happy End. Il y a eu aussi L'Avenir de Mia Hansen-Love. Récemment, on a eu aussi le magnifique documentaire d'Emmanuel Gras, Makala. Il y a eu aussi d'autres films comme Olli Mäki, un film finlandais de Juho Kosmanen. Il y a eu aussi Diamond Island de David Chou, L'Opéra de Paris de Jean-Stéphane
Donc
Roux.
Il y en a eu beaucoup quand même.
Voilà.
En fonction de quoi? C'est pas forcément donc un film le plus diffusé à l'étranger n'est pas forcément un film le plus cher ici. Donc ça n'est, le critère du budget n'est pas premier nécessairement. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que ce film-là va pouvoir marcher dans un autre pays? Quel pays? Vous parlez de savoir-faire. Est-ce qu'on peut rentrer dans votre machinerie un peu?
Un bon film, à mon sens, reste un bon film. Après, évidemment, il y a des spécificités sur certains territoires, mais un film qui bouscule, qui émeut, qui donne de l'émotion. La question, c'est l'universalité aussi qui se joue. C'est-à-dire que une histoire qui se passe, par exemple, je sais pas, entre justement, par exemple, le film de Mia Hansen-Love, L'Avenir, donc avec Isabelle Huppert. C'est le portrait en fait d'une femme qui se sépare et ça a parlé à énormément de gens dans justement on va dire la quête de liberté qu'elle trouve petit à petit, son épanouissement. Il y avait un discours extrêmement joyeux en fait dans tout ce bouleversement dans sa vie, et c'est quelque chose qui a plu à travers tous les pays. Concrètement.
Bérénice Vincent, on parlait des Césars tout à l'heure qui ont eu lieu hier soir. Les Oscars donc auront lieu demain. Tout à l'heure, en vous demandant si vous étiez plutôt Marianne Faithfull ou John Baez, je pensais donc que vous alliez répondre Lady Bird, parce que vous m'avez dit que vous aviez vu Lady Bird et aimé Lady Bird. Et Lady Bird est ce premier film dont on parle beaucoup parce qu'il est sorti cette semaine sur les écrans français. Il est réalisé par Greta Gerwig, égérie du cinéma indépendant. C'est un film qui brosse le portrait là aussi singulier, très touchant, d'une adolescente plutôt de la classe moyenne à Sacramento en Californie. C'est un film plus ou moins autobiographique, elle le reconnaît, Greta Gerwig, et il est nommé 5 fois aux Oscars. Est-ce que ce film-là va bien s'exporter selon vous?
Ah oui, je pense qu'il s'est très bien exporté, tout à fait.
Et est-ce qu'il a des chances de gagner demain?
Je pense que c'est pas exclu. Après, je ne sais pas. On verra. Je pense qu'il y a aussi des.
L'exportatrice n'a pas encore le don de devin.
Non, malheureusement pas.
On va terminer cet entretien avec vous, Bérénice Vincent, par votre choix musical. Vous nous en dites deux petits mots, le monde du silence.
Alors, c'est un morceau de Mansfield Tia, qui sont deux musiciennes nantaises. Le titre est cinématographique et les paroles sont plutôt intéressantes à mon sens.
Allez, on écoute. Merci Bérénice Vincent d'être venue ce matin. Je rappelle le site sur lequel on peut aller voir le site de votre collectif 50-50 pour 2020. Merci encore.
Merci à vous.
Il est 7h40 sur France Culture et tout de suite on passe à la Fabrique médiatique.